Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de cybersécurité, de cyberattaque, également émission spéciale dans Parlons économie. Nous a rejoint autour de la table le fondateur de N-Secure. Bonjour Dimitri Chichelot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à nouveau dans cette émission. Vous avez reçu il y a quelques semaines pour parler bien déjà en partie finalement de ce sujet qui nous passionne, toujours avec nous également Stéphane Corr, le spécialiste en sécurité de l'information et vice-président d'ImmuniWeb. Quand on dit spécialiste en sécurité de l'information, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je ne suis pas un informaticien. Déjà, premièrement.
Le masque tombe.
Oui, et qui est un métier en tant que tel. Déjà, c'est un respect pour. Voilà, c'est un métier complexe qui demande un certain nombre de compétences et d'expertise que moi, je n'aurais pas. Et je suis beaucoup plus sur une couche où je prends en compte l'humain, le fonctionnement de l'information, les risques qui sont liés aux réseaux sociaux, par exemple, et aux crises qui peuvent être induites, aux mauvais comportements, aux mauvaises utilisations et mauvais niveaux de protection. Donc, c'est cette couche un peu intermédiaire qui est un peu au-dessus, façon de parler, de l'aspect purement informatique.
C'est quoi une bonne cyberhygiène ? C'est un de vos termes, mais...
Oui, alors, c'est-à-dire, on va reprendre je ne veux pas dire les poncifs, mais en tout cas, les éléments clés, basiques, c'est d'être conscient du risque, conscient que, de toute façon, on ne peut pas s'assurer de le gérer à 100%, mais qu'on peut mettre un certain nombre de mesures en place pour pouvoir réduire ce risque, comme l'utilisation de produits de sécurité solides, le fait d'avoir aussi un comportement adéquat, c'est-à-dire aussi utiliser des gestionnaires de mots de passe, d'avoir des phrases de passe pour accéder à ces gestionnaires, de pouvoir faire que chaque mot de passe est un mot de passe unique et qui est aussi solide, d'avoir la double authentification partout où c'est possible, d'être vigilant, c'est-à-dire d'avoir aussi cette idée de l'identification du risque quand, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un nous appelle et nous dit bonjour avec en anglais, c'est la police fédérale. Voilà, I am the police fédérale. Donc on voit qu'il y a déjà un problème à la base. C'est-à-dire que observer aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que observer dans l'actualité, quand des gens ont des problèmes qui sont liés au cyber, au social engineering et autres, se dire comment est-ce que ça peut arriver. Alors plutôt que de se moquer, par exemple, comme c'était le cas pour cette femme qui était victime de ce chantage au sentiment récemment, de cette arnaque au sentiment avec le faux Brad Pitt. Voilà, tout le monde, moi j'ai géré un certain nombre de cas de sextorsion, donc de chantage via webcam avec des contenus sensibles, etc. Et bien dans ces cas-là, le point commun à toutes les victimes, c'est un moment de fragilité. C'est-à-dire, on peut être très fort, mais on peut avoir un moment de fragilité. Et les fraudeurs cybercriminels sont tombés au bon moment de ce mauvais moment. Et par exemple, quelqu'un disait une fois dans un témoignage, la personne était en train d'aller à l'aéroport, elle devait gérer son horaire, tout un ensemble de choses. Elle reçoit ce message d'un soi-disant ami qui lui dit « Mais envoie-moi de l'argent, j'ai perdu l'accès à mon compte. » Voilà. Et la personne l'a fait parce qu'elle voulait vite éliminer ce problème-là pour pouvoir se reconcentrer sur tout ce qu'elle devait gérer à ce moment-là. Donc vous voyez, je veux dire, cette vigilance-là, le fait d'observer comment les choses se passent, nous éduque consciemment et inconsciemment peu à peu.
Vous parliez un peu plus tôt d'intelligence collective. C'est important de rappeler effectivement qu'elle existe, mais comment est-ce qu'elle se traduit en matière de cybersécurité ?
Elle se traduit en fait que l'intelligence collective, c'est apprendre, alors techniquement déjà, des problèmes des autres au niveau des failles. Par exemple, sur ImmuniWeb, on a cette capacité d'apprentissage à travers l'intelligence artificielle et autres, des vulnérabilités, des failles et autres, et de voir comment on arrive à implémenter des mesures de réponse à ça. Mais c'est aussi la bonne intelligence en bonne concurrence, c'est-à-dire avec toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité à Genève. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont extrêmement qualifiées. Et pour les entreprises, c'est de se dire, OK, nous, on a un problème, on va travailler aussi en bonne intelligence. On est peut-être concurrent sur certains points, mais peut-être qu'on peut se mettre ensemble, des fois, pour mandater des entreprises de sécurité, avoir des formations, des choses un peu plus transversales qui vont toucher ces entreprises sur les points qu'elles ont en commun. Donc, c'est réfléchir ensemble et c'est aussi avoir une homogénéité. C'est pour ça que je suis toujours très frileux par rapport aux mesures cantonales, parce qu'il faut vraiment un plan, des fois, fédéral pour que le niveau de connaissance et les mesures soit homogène par rapport à la gestion de ces cyber-risques.
Mais voire même au-delà, puisqu'aujourd'hui, on voit bien des entreprises qui développent typiquement des intelligences artificielles qui arrivent à faire des choses incroyables, dans le bon comme dans le mauvais. J'ai l'impression qu'il faut d'abord... j'ai l'impression qu'on prend d'abord à bras-le-corps ces outils avant de savoir qu'il y a un risque, avant de mettre en place une réglementation, avant d'apprendre à s'en prémunir.
Oui, par exemple, beaucoup de gens ont commencé à utiliser l'outil de l'entreprise chinoise DeepSeek, et il s'avère que...
Ça prend beaucoup de données.
Oui, mais que les données n'étaient pas protégées par les mots de passe et qu'elles étaient un peu en libre accès sur le web, quelque part. En tout cas, c'est ce qui est ressorti aujourd'hui dans un article d'une revue tout à fait sérieuse sur ce point. Et puis, des fois, on n'évalue pas non plus notre dépendance à la technologie. C'est-à-dire que, par exemple, quand un OpenAI via ChatGPT a des dysfonctionnements, il y a des heures d'interruption, quel est le plan B? Est-ce qu'on a une stratégie ou on peut reposer sur d'autres outils? Dans quelle mesure aussi on crée cette dépendance sur le long terme? Est-ce qu'on peut rapatrier ce type d'approche au niveau local? La notion de souveraineté numérique, elle devrait vraiment s'axer aussi sur l'intelligence artificielle, de dire on doit avoir aussi un plan qui dit on doit garder un savoir qui est le nôtre à l'intérieur de nos frontières, mais ne pas... on va dire, desservir les entreprises qui ont besoin d'accéder à la même qualité de service que offrent ces grands groupes aujourd'hui. Donc il y a une vraie réflexion à faire et aussi identifier toutes les interdépendances qu'on a en termes d'entreprise. Si par exemple on est toujours dépendant de son fournisseur d'accès, on voit une entreprise qui était dans le domaine de la comptabilité qui a été touchée par un gros problème et c'était pas elle directement qui était touchée, c'était son prestataire d'hébergement, de cloud, qui lui était touché. Mais par contre, dans les médias, c'était l'image de cette entreprise qui était mise en avant et pas celle du prestataire de cloud. Après, on peut toujours dire, après coup, oui, mais elle aurait dû avoir un service de redondance et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se dire qu'est-ce qui arrive quand je suis dans une situation critique et qu'est-ce que je peux utiliser comme moyen de réponse et comment je peux répondre, est-ce que j'ai prévu ces scénarios.
Des éléments de réponse, on vous en donne et je donne la parole également à Dimitri Chichelot dans un instant sur Carac, sur Radio Lac.